ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Ruth Lane. La question de Dylan.
Comment arriver au niveau de se dire que tout est gagné et tout va, même quand tout va mal?
En français, donc, comment arriver au niveau de tout est pour le bien, même quand tout va mal? D'abord, il faut bien comprendre qu'il y a deux parties en nous. Il y a la partie rationnelle et la partie émotionnelle, sentimentale, émotionnelle. L'émotion, le mal, s'exprime dans l'émotion. On souffre, on n'est pas content, ça va pas, on désespère. C'est pas rationnel. Pourquoi ? Parce que la raison peut rapidement analyser une situation et dire que la chose très simple, Gamzou le Tova, ça veut dire c'est aussi pour le bien, ça veut dire je suis géré par Dieu. Tout ce qui se passe dans le monde provient de Dieu, absolument tout. À part une chose, ce qui concerne mon libre arbitre, ça veut dire les choix que j'aurai, dans quelle mesure j'agis en fonction de la Torah ou pas. Je fais une petite parenthèse pour bien expliquer ça auparavant, parce que les gens, ce n'est pas très clair à leurs yeux d'habitude. Quelqu'un va au restaurant et peut choisir du poisson ou de la viande. Il va regarder le prix, il va regarder le goût, il va regarder le titre avec la tartine qu'ils mettent ici pour aller chez l'imagination, d'accord? Et il choisit. Qui a choisi? Certainement pas lui. Qui a choisi? Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en lui certains goûts, l'a fait voir en route certaines pubs, le prix aussi en fonction de sa... ses moyens, la pression sociale, il est invité, c'est la future fiancée. Bon, il y a beaucoup de paramètres qui vont faire que. Si dans le choix, il n'y avait que la question entre le goût, le prix, etc. S'il y avait question de cachère, pas cachère, là, c'est tout à fait autre chose. C'est clair qu'on peut préférer un poisson à une viande pour les raisons de cache-route. Là, déjà, c'est une question, il y a déjà ici un choix, un libre arbitre. Mais il faut bien comprendre, dans nos choix dans lesquels il n'y a pas de question de Torah, j'ai un choix maintenant, mais que je fasse comme ci ou comme ça, ça n'a aucun impact au niveau de la Torah. Ce n'est pas moi qui choisis. Je choisis en fonction de mes pulsions, en fonction de ma nature. Ce n'est pas moi qui me suis créé mes pulsions, ce n'est pas moi qui me suis créé ma nature. On me l'a donné, ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas non plus le voisin. C'est une donnée, comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Parce que c'est pas rationnel, je ne peux pas dire maintenant, t'as raison, t'as pas raison. C'est une chose qui est innée comme ça je suis. Mais qui a créé ça, ce inné? C'est Dieu. Donc tu n'as pas de libre choix à ce niveau-là.
Donc un goy n'a pas de libre arbitre?
Un goy aussi, il a un libre arbitre. Il a aussi des choix toraïques, parce qu'il a cette loi noachide. C'est clair. Donc rationnellement, je dois comprendre que, à part les fois où moi maintenant j'ai un libre arbitre, je choisis, et c'est quand j'ai un libre arbitre, uniquement la question de Torah. Par exemple, je décide maintenant, je prie avec concentration ou pas, je regarde une fille dans la rue ou pas, je mens ou pas, d'accord, je fais la bracha lentement ou pas, je ne fais pas la bracha du tout, d'accord, ou bien je ne sais pas, je me concentre mieux, je refais encore une révision de ma page de Gemara ou pas. Dans tous ces cas-là, il y a une partie en moi qui me pousse à ne pas faire ce que Dieu demande, et une partie en moi qui me pousse à faire ce que Dieu demande. Qui va décider? C'est moi. Et là, c'est moi qui décide. Mais dans tous mes autres choix, ce n'est pas moi qui décide. Et tout ce qui m'arrive dans la vie, ce n'est pas moi qui décide non plus. Qui décide? Dieu. Rien ne peut m'arriver. Absolument rien ne peut m'arriver si Dieu n'a pas décidé. Un type vient, il prend sa voiture, et... je sais pas moi, il est antisémite, il voit que je suis juif, boum, il rentre avec sa voiture dans ma voiture. Ou, je sais pas moi, il me tape dessus, ou chas v'shalom, d'accord, n'importe quoi. Tout ce qui peut nous arriver, j'ai un différend avec un voisin, un différend avec une personne, un différend avec qui que ce soit, avec ma belle-mère, d'accord. Toutes ces choses-là, on pourrait croire, c'est lui le tordu. C'est vrai qu'il est tordu. Mais comment se fait-il que Dieu lui laisse le droit de me faire du mal? Quoi? Le monde, c'est la jungle, on fait ce qu'on veut? Impossible. Impossible. Il faut bien comprendre cette notion. Impossible que quoi que ce soit m'arrive si Dieu n'a pas décidé. Donc Dieu a décidé, je l'envoie maintenant cet antisémite. J'en vois maintenant ce voisin casse-pied, je vois maintenant cette belle-mère insupportable, etc. C'est Dieu qui a envoyé. Donc rien ne peut m'arriver si Dieu n'a pas voulu. Alors je souffre. Mais il faut comprendre que la souffrance est au niveau émotionnel. C'est l'estomac qui parle. Au niveau de la raison, Dieu s'occupe de moi, Dieu a permis ça. C'est pour mon mal ou pour mon bien? Est-ce que Dieu peut me faire une chose pour mon mal? Dieu nous aime. Mais il faut comprendre ça d'un amour. Si on se rendait compte, on tomberait mort place, sur place.
Punition, c'est pas bien.
S'il n'y a pas de punition, c'est une invention goy, ça, la punition. Il faut enlever ça de la tête. Ça n'existe pas, punition. Il y a des réparations. Il y a des jobs à faire. Ben ça, en hébreu, tikkun. Tikkun, ça peut signifier deux choses. Soit réparation, soit job à faire. Réparation, on a fait des péchés. Maintenant, il faut réparer. Comment on répare? Eh bien, on doit l'effort. On doit se mettre... Normalement, la réparation se fait comme ça. Quelqu'un qui a fait un péché, pour effacer le péché, c'est quoi le péché? Il a donné du flux de sa vie à lui dans le niet, dans rien. Ou pire, dans des choses qui provoquent du mal, qui font du mal, qui provoquent beaucoup de mal dans le monde. Il doit réparer ça. Le meilleur moyen, c'est lorsqu'il se retrouvera en face du péché, il se retiendra et ne refera pas. Et il fait tchouva, il dit à Dieu, je regarde ce que j'ai fait, et je ne refais plus. Ça s'appelle la tchouva, ça répare. Pour les péchés graves, c'est insuffisant, parce qu'il a donné beaucoup de flux divins dans les choses qui sont extrêmement mauvaises, les péchés graves, tels que le péché sexuel par exemple, qui sont extrêmement graves, le Shabbat, Yom Kippour, d'accord, des choses qui sont extrêmement graves. Là, en fait, ce sont les péchés qui sont sanctionnés par le karet ou par la peine capitale à l'époque du Temple, puis aujourd'hui. Là, pour réparer, il faut la tchouva, il faut Yom Kippour, il faut aussi de la souffrance. Pourquoi la souffrance? Parce que l'effort que tu aurais dû faire pour ne pas pécher, que tu n'as pas fait. Voilà, on va dire, tu avais maintenant, je ne sais pas moi, donne-moi un exemple, tu avais Yom Kippour, Shabbat, voilà. Tu as une envie de fumer terrible. Fumer Shabbat, rassé shalom, d'accord. Bon, on est au mois de juin, Shabbat sort à 10h30 du soir, t'en peux plus, on t'a énervé, t'as le réflexe, tac. Non, oui, non, oui, non, oui, non. Et oui, grâce à Shalom, tu fumes. Maintenant, l'effort que tu aurais dû fournir pour résister et ne pas fumer, que tu n'as pas fait, c'est ça ton raté. Comment tu le répares? En le fournissant. Donc Dieu va te mettre dans une situation maintenant où tu devras avoir le même effort, les mêmes conditions, les mêmes nerfs, t'en peux plus, et quand même arriver. C'est pas toujours que Dieu nous mette dans la même situation pareille. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut arriver maintenant à nous mettre dans une situation où je dois faire maintenant l'effort que j'aurais dû faire et j'ai pas fait? Effort égale souffrance. C'est quoi un effort? C'est une souffrance. Ne pas fumer quand j'en peux plus et me retenir, c'est une souffrance. On appelle ça effort, mais c'est une souffrance. Le matin, quand il fait froid la nuit et on doit sortir, aller à la prière tôt, c'est un effort. C'est une souffrance. Donner la tzedaka à quelqu'un quand t'es radin, c'est un effort, mais c'est une souffrance. Tout le mot effort égale, c'est exactement la même chose. Effort égale souffrance. Simplement, on appellera une petite souffrance, on l'appellera effort. Et une grande souffrance, ou un grand effort, on l'appellera souffrance. Mais c'est la même chose. Comment on répare? On répare avec une souffrance égale à celle que j'aurais dû faire pour, en tant qu'effort pour ne pas pécher, et comme ça je répare. Les péchés graves sont réparés, il faut aussi de la souffrance. Il est vrai que l'étude de Torah peut pallier la souffrance. L'étude de Torah peut être à la place de la souffrance, mais il faut une étude de Torah qui soit faite avec effort aussi, avec souffrance. C'est pas facile d'étudier une page de Gemara, on comprend rien, on refait encore une révision, encore et encore et encore. C'est une souffrance, d'accord, mais elle est positive, elle répare énormément. Donc il n'y a pas de punition. Il n'y a que des réparations. Maintenant, ça, c'est une réparation d'un péché qui a été commis. Il y a aussi, comme je l'ai dit, autre traduction du mot tikkun, job. C'est quoi un job? On est né sur terre, on n'est pas parfait. On est né bébé. Le bébé, c'est tout ce qu'il y a de moins parfait. Il est pur, il est gentil, il est spontané, mais c'est une horreur. D'accord? Pour les mamans n'aiment pas qu'on dise une chose pareille. Il est mignon comme tout. Mais du point de vue maintenant de ses midot, de ses qualités d'âme, c'est un tordu. Il est complètement égoïste, nerveux, Il crie dès qu'il veut quelque chose, d'accord. Parle. Non, il ne s'est pas pris. Il crie, d'accord. Il voit la petite voiture chez le voisin qui est plus belle, il le pousse, il prend la voiture. Les enfants sont extrêmement cruels, d'accord. C'est un sauvage. Nous sommes nés sauvages. Et Dieu veut qu'on soit à l'image divine, qu'on soit comme des anges. Donc il y a un boulot à faire, il y a un job à faire. C'est ça le tikkun. Ce job, il est dur. Maintenant, pour y arriver, on doit passer aussi par des souffrances des fois. Quand maintenant, il y a un point qui ne va pas, Dieu veut que je le répare. Par exemple, je suis un jaloux parfait. Je suis un petit jaloux. Mais, je suis très doué. Et partout où je vais, je suis le top. Rien ne me dérange. Il n'y a personne qui me dérange, je suis le top. Partout où je vais, voilà, en classe, je suis le meilleur. Dans le business, je suis le meilleur. Je suis le plus beau garçon de la classe, du collège. De qui je peux être jaloux ? Maintenant, Dieu veut que je travaille l'amida, la qualité d'âme, le défaut de la jalousie. Il va m'amener ma type maintenant juste, mais pas dans la classe à côté de moi, mieux que moi. Plus grand, plus fort, plus intelligent, plus beau. Exprès. Et moi, j'en peux plus. Pourquoi Dieu me l'a envoyé ? C'est une souffrance. Pour te punir, pas pour te punir. Dieu m'attend que tu fasses ton job. Donc on peut appeler ça une souffrance. Mais en fait, c'est pas une souffrance. C'est oui une souffrance, mais c'est pas que je viens, c'est pas une punition. C'est un désir extraordinaire de bonté que Dieu a envers moi qui veut que je change mes mauvaises qualités. Je suis un nerveux. Dieu va m'amener des tas de gens qui vont me mettre en colère à un point que ma vie devient insupportable. Ma femme ne veut plus me voir, mes enfants ne veulent plus me voir, mes parents n'en parlent pas. Alors, ou je commence à me réveiller et je bosse, ou bien ils vont encore m'envoyer comme ça, mon cher ami, tu vas changer. Je ne veux pas que tu arrives au lama bas en tant qu'animal. Donc, Dieu nous envoie des souffrances. Maintenant, ça, tout ce que je suis en train d'expliquer maintenant, on peut le comprendre rationnellement. Il faut faire tout le travail que je suis en train de dire maintenant, que rien ne peut m'arriver. Tout ce qui m'arrive maintenant sont tous des envoyés de Dieu. Tout ce qui m'arrive sont des envoyés de Dieu. Dieu ne veut que mon bien. Mais Dieu ne m'envoie pas des envoyés qui me lancent des fleurs. Ça ne sert à rien. Tiens, t'es quelqu'un, t'es beau, t'es grand, t'es fort, t'es le meilleur. Ça ne sert à rien. Pourquoi il a besoin de ça? Ça, je te laisse pour Olam Haba. Tu auras tous les anges qui vont venir te dire ça. Moi-même, je te dirai ça. C'est bien mieux que les gens qui te font des soi-disant compliments. Moi, je te corrige, mon cher ami. Je t'envoie des gens qui vont me corriger. Et comment c'est quoi corriger? C'est que dès que tu es en contact avec eux, ça ne va pas. Il y a un problème. Ou ils t'énervent, ou t'es jaloux, ou t'es haineux, ou t'es gavetin, t'es orgueilleux, ou t'es radin. Bon, il y a une panoplie de choses qu'on doit arranger. Et pour qu'on les arrange, Dieu de nous mettre en situation où ce défaut-là, il s'exprime et il me rend la vie dure.
Une situation où quelqu'un, il essaie d'être calme, il essaie de calmer ta peur, essaie de te contrôler, quelqu'un, il te pousse à bout jusqu'à que tu sais que tu peux... Razvei Shalom, tu peux lui lever la main dessus. C'est quoi? Et Razvei Shalom, il pousse à bout, lui-même, il veut te lever la main dessus. Et bien, maintenant, il lève la main dessus en premier, ok? C'est quoi? C'est une punition.
Il lève la main, il frappe ou lève la main, il frappe pas? Il frappe.
Ouais.
On va prendre les deux cas.
C'est une punition aussi, en quelque sorte.
Alors, Hachem veut qu'on travaille nos midot. La mida numéro 1, qui est la source de toutes les mauvaises midot. Donc les midot sont les traits de caractère, d'accord? Le trait de caractère numéro 1, qui est la source de tout, s'appelle l'orgueil, la gava. C'est source de tous les maux. Et la meilleure mida de toutes s'appelle l'humilité, la anava. Carpette. Si t'es carpette, d'abord, tu ne seras jamais jaloux, jamais énervé. Qui suis-je pour qu'on m'énerve? Pourquoi on s'énerve? Parce qu'on ne fait pas ce que je veux. Ça ne va pas comme je veux. Mais si, c'est qui moi qui peut commencer à dire je veux? C'est quoi ce je? Moi, je suis rien. C'est un niveau super balèze qui ne nous concerne pas à nous. Mais on doit travailler comme un petit peu. Comprendre qu'on est très très loin de cette mida, de cette. Si je pouvais, je ferais des cours là-dessus jour et nuit. Tellement c'est grand, tellement c'est beau. Quelqu'un m'a demandé en quoi c'est bien d'être humble. Il va voir les vues de Moussa, ils en parlent beaucoup, beaucoup. Mais j'ai une chose qui est vraie, une raison. Parce que les gens peuvent poser la question, qu'est-ce qu'il y a de si important à être humble? Humble, c'est être dans le vrai. Orgueux, c'est être dans le faux. Pourquoi? Parce que réellement, c'est quoi être dans le vrai? C'est ce qui est réel. Passe-moi le crayon, là, s'il te plaît. Si je dis c'est un crayon, vrai ou faux? Vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce qu'en réalité, il y a c'est un crayon. Tu dis c'est une poule mouillée. C'est vrai ou faux? Faux, parce qu'en réalité, il n'y a pas de poule mouillée ici. Il y a un crayon. Ça veut dire, ce qui est faux est ce qui n'existe pas. C'est pas réel. Ce qui est vrai, c'est ce qui est réel. Maintenant, si moi maintenant, je me prends pour ce que je ne suis pas, je suis dans le faux. Donc je ne suis pas. C'est compliqué ce que je dis. Si je me prends pour ce que je ne suis pas, je suis quelqu'un. Je me prends pour quelqu'un. Je suis quelqu'un. Bon, j'ai des défauts, mais je suis quand même quelqu'un. Si c'est vrai que j'étais quelqu'un, je suis dans le réel. Mais si c'est faux, si je suis vraiment rien, et je pense que je suis quelqu'un, je suis dans le faux. Ça veut dire que je me prends pour une chose que je ne suis pas, ça veut dire que je vis dans un film. Je ne suis pas dans la réalité. Je suis dans le niet, à côté de la plaque. Je ne suis pas dans la, dans la réalité, je suis dans le faux. Ça veut dire que je ne suis pas dans ce qui est juste. Je suis dans un film. Or, est-ce que je suis quelqu'un ou pas? Je ne suis rien parce que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Je suis un homme créé, un être créé. Il n'y a rien qui me revient. Et même si on dira, oui, mais quand même, par mon libre arbitre, j'ai fait des bons choix dans ma vie, ok, c'est vrai. Mais qui t'a donné maintenant cette capacité de choisir le bien? T'as donné le Neshama? Tout ça t'a été donné. Tout nous a été donné. Donc moi, dans la réalité, je ne suis rien. Je suis une créature qui a été créée et tout ce que j'ai provient que Dieu a bien voulu me donner. J'ai rien à moi. J'ai rien à moi. T'as un type, il est millionnaire. Et il vit la vie de Lord. Il roule en Rolls, je sais pas, d'accord, la vie de Lord. Mais c'est pas son argent. C'est un autre Lord, millionnaire, qui veut faire une blague, et il lui donne à lui des millions. Ouais, on va voir comment tu vis. Lui, il se la joue comme s'il est le grand millionnaire. Il n'a rien fait. Nous, tout ce que nous avons comme qualité, c'est de donner gratuitement par Dieu. Ça ne me revient pas. Je n'y ai pas droit. C'est pas moi. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, quelqu'un qui n'est pas humble, il est dans le faux. Maintenant, Dieu ne veut pas être, il ne veut pas qu'on soit dans le faux. Il veut qu'on soit dans le vrai. Il veut qu'on s'écrase. Comment on va s'écraser? Comment on va s'écraser? La situation de confrontation avec quelqu'un d'autre. Où il commence à me faire bouillir. C'est qui agit quand quelqu'un me fait du mal, je commence à bouillir. Qu'est-ce qui se passe en moi? On touche mon ego. Les nerfs proviennent uniquement quand on a touché mon ego. L'ego, c'est l'ennemi public numéro un. La source de tout le mal. Parce que je me prends pour quelqu'un. Je suis quelqu'un. Je ne peux pas vous parler de cela face à la caméra encore moins, parce que je suis touché par mon ego moi aussi. On a tous un ego énorme. J'ai dit, ok, on est très loin de l'humilité. Mais au moins qu'on travaille un peu à l'affiner, un minimum. Lorsque Dieu veut qu'on travaille notre ego, on se voit des gens casse-pieds. Et un type qui se travaillera, il va se faire carpette, carpette, carpette. On dit, t'es crétin? Oui. Non, t'es super crétin? Oui. T'es le plus crétin de tout le monde? Oui. Et ça te fait rien. Ça te fait rien. Qui ça fait peut-être, ça touche l'ego. On dit à propos du Rav Israël Salanter, qui était un des grands de la Torah énorme qu'il y avait à l'époque. D'ailleurs, on n'a aucune photo de lui, il ne voulait pas se faire photographier pour pas trahir son ego. Il y a une photo de moi, des gens, on pourra me voir quelque part. Il a passé peut-être 10 ans de sa vie à Paris, personne ne sait qu'il était là-bas, ce qu'il faisait. Le grand de la Torah, il allait pour essayer de faire tu vois aux gens à Paris il y a 120 ans déjà, à l'époque c'était déjà pourri. On dit qu'à la fin de sa vie, ça faisait le même effet qu'on lui faisait un compliment ou un défaut. Psh, Kvod Harav, Dravo Drasha, extraordinaire. Bon, il est content, il a bien. Kvod Harav, c'était nul. Ça faisait aucun effet. Même chose. Qui a fait? C'est moi qui ai fait. Ah, ça, c'est des niveaux oubliés, hein. On est à 40 000 années-lumière. Mais quand quelqu'un vient maintenant et m'écrase, c'est l'ego qui va réagir. Et quand tu vas m'écraser, ah, tu deviens fou. Là, il y a un travail.
L'ego, c'est un Yetzirah.
C'est l'œil Yetzirah. L'ego, c'est l'antithèse de l'humilité. C'est l'orgueil. Donc Dieu veut maintenant qu'on travaille nos mauvais traits de caractère. Tout ce qui nous arrive dans la vie sont des envoyés pour qu'on travaille là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vient l'envoyé, et c'est très dur parce que t'as quelqu'un maintenant, je sais pas, il te fait un procès. Injuste. Tu lui en veux, t'as envie de le défoncer, c'est terrible, tu leur parles la nuit. Mais il est envoyé par Dieu. Il est envoyé par Dieu.
On va pas se laisser faire.
Je n'ai pas dit que vous laissez faire. Attends, c'est important. On parlait, est-ce qu'il a frappé, il va frapper ou pas? D'accord, tu peux te protéger, tu dois te protéger. Revenons au cas auparavant, le type, il lève la main. Il n'a pas encore frappé, ça va, il fait une menace. Regarde. Il a vraiment frappé, tu peux te protéger. Ça, c'est clair, on a l'obligation de se protéger. Mon niveau de ce qui se passe, l'ébullition intérieure, je reste, comme vous dites, zen, d'accord? Je suis tout à fait calme. Je dois me protéger, je me protège, ok. Dans un procès, je dois tout à fait, partout ça je parle idéalement, hein, on est dans le, mais idéalement, on doit tout à fait, voilà, ben Dieu fera, je dois faire ce que je dois faire, je prends un avocat, j'ai les arguments, etc. Je ne suis pas inquiet, Pourquoi? Tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et Dieu ne veut que mon bien. Donc il veut maintenant quelque chose de moi, dans ce travail, dans ce qui m'arrive, il veut quelque chose, quoi? Ou bien simplement c'est une souffrance pour réparer des péchés du passé, des souffrances que j'aurais dû faire, que je n'ai pas faites dans l'effort de ne pas faire le péché. Ou bien peut-être il veut de moi quelque chose ici. Je dois réfléchir maintenant quelle est chez moi maintenant la réaction qui n'est pas en phase avec le désir de Dieu. La jalousie, la haine, l'ego qui est touché, l'orgueil donc qui se manifeste, les nerfs, le désir de le pouvoir, d'accord? L'envie, on a beaucoup, on a une panoplie de mauvaises qualités, des mauvais traits de caractère qu'on doit réparer. Et d'habitude, les choses de la vie sont là pour me faire signe, tiens, c'est ça qu'il faut travailler. Attends, ça, je peux faire le raisonnement hein, avec la tête. Je peux raisonner, ouais, ça. Mon niveau maintenant du ressenti, c'est extrêmement dur. Je sais, oui, tout est pour le bien. Et si tu viens maintenant, c'est pour faire un tikkun là-dessus, ou bien c'est pour kaparat avonot, c'est pour la souffrance des péchés que j'ai fait. Ok, très bien. Mais dans le ventre, je suis en ébullition totale, je souffre. C'est ça ta question. Comment arriver à dire pour tout ce qui m'arrive, Gamzul et Tova, c'est aussi pour le bien. C'est qu'il y a un fossé entre ce que dit ma tête, que c'est pour le bien. Je peux comprendre ce que je viens d'expliquer maintenant dans mon développement, que tout ce qui m'arrive ne peut être que pour mon bien, parce que tout ce qui m'arrive provient de Dieu, et Dieu ne veut que le bien. Donc c'est clair qu'il n'y a que le bien qui peut m'arriver, mais que ça m'a l'air mal. Et je peux comprendre dans ma tête que ce qui m'a l'air mal n'est pas mal en fait. C'est que pour le bien, c'est clair. Maintenant, la question, elle est comment le vivre? Et là, il y a une seule chose à faire. Il faut travailler la émouna, la foi en Dieu. Se répéter sans cesse. Tout ce que je viens de dire maintenant, se répéter et le répéter sans cesse. Mon estomac lui-même, il va s'écraser par rapport à ce que dit ma tête. Je vous ai déjà souvent dit ce principe, que la tête, elle est plus forte que le cœur. A priori, pour quelqu'un qui ne travaille pas, c'est le contraire. La tête, c'est rare qu'elle travaille. Ou elle travaille comment faire une bonne affaire, comment trouver une bonne combine. Ok, ça, elle travaille sans cesse. Et travailler maintenant sur ce qui m'arrive dans ma vie et qu'est-ce que Dieu veut de moi et que je dois faire comme boulot, c'est très rare. Le but, c'est le cœur. Et quand une chose m'arrive, le cœur, il réagit. Si la tête ne travaille pas, le cœur, il prend toute la place. Mais si la tête se met à travailler, c'est comme un cheval et un cavalier. Si le cavalier est endormi, le cheval il fait ce qu'il veut, c'est le cœur. Mais si maintenant le cavalier dit au cheval non, alors au début le cœur il n'est pas content, le cheval il fait du rodéo, d'accord. Mais si c'est un bon cavalier, un bon dompteur, lentement il va le mettre au pas. Ça prend du temps. À force de travailler avec les pensées de raison, en pensant maintenant pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qu'il veut de moi, donc je ne dois pas en vouloir à la personne, et c'est pour mon bien, lui c'est qu'un ange qui est envoyé, il a grâce au compte avec Dieu, c'est pas mon problème à moi. Maintenant, j'ai un travail à faire, c'est un envoyé de Dieu. Je répète ça sans cesse. Au bout d'un moment, le cheval, le cœur, il comprend. Et même au niveau de l'émotion, je n'ai plus aucune émotion négative. Et là, j'ai fait le tikkun. Et d'habitude, à ce moment-là, Dieu enlève d'ailleurs la personne. Parce que qu'est-ce que voulait Dieu? Pourquoi me l'envoyer? Pour que je répare maintenant ce qui n'allait pas en moi. J'ai réparé. T'as réparé? Ok, allez, enlevez-le. Bye bye. Maintenant, amenez quelqu'un d'autre. On va réparer une autre midat. On va faire autre chose, d'accord? On est là pour travailler. Et Dieu donne aussi de temps en temps un moment de répit, d'accord? Dieu veut qu'on travaille notre cœur, ça veut dire notre ego avec toutes les mauvaises qualités d'âme, le cheval qui est en nous. À nous d'être cavaliers. Maintenant, ta question, comment faire pour ressentir cela? C'est avec un travail de pensée. Il faut que le cavalier ne soit pas endormi, comme c'est le cas chez la majorité des êtres humains, lequel doit se réveiller et faire son job. Et dire au cœur, non mon cher ami, c'est pas par là qu'on va, c'est comme ça. T'es pas content, il se met à hennir, qu'est-ce que j'en fais? Un cheval, il fait c'est un animal. Notre corps, c'est un grand animal. Beaucoup plus dangereux qu'un cheval. Beaucoup plus dangereux qu'un cheval. Le pouvoir d'instruction d'un homme qui travaille pas son cœur avec la pensée et qui laisse faire tout ce qu'il veut, c'est terrible. Terrible. Donc on doit se travailler et comprendre, se répéter sans cesse. Tout ce qui m'arrive provient de Dieu, avoir une émouna, une foi en Dieu. Dieu m'aime. Dieu ne veut que mon bien. Et cette personne-là, elle est envoyée par Dieu. Donc quelque part, c'est un ange. Je dois lui embrasser les pieds. Embrasser les pieds, c'est pas facile, hein. Ouh là là, que ce soit très clair, dans le discours, je suis à 40 000 lieues de ces choses-là, mais on doit commencer à travailler avec l'esprit, au moins ne pas parler la chandara sur lui. On rentre à la maison, on est énervé. Ok, ta femme dit, qu'est-ce qui se passe? T'as envie de lui... Comment tu peux commencer à la chandara? Très grave. On se tait. Pas de gros mots, pas d'insultes, pas de maudire, accepter. Alors tu bouillonnes, au moins intérieurement, c'est déjà un très bon travail. Dans les nerfs, il y a plusieurs niveaux, quelqu'un qui s'énerve. C'est marqué que celui qui déchire ses habits, casse des ustensiles ou dilapide son argent quand il est énervé, qu'il soit à tes yeux comme s'il fait de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que son âme est partie, le Zohar, et à la place rentre une âme impure qui est le maître de ce qui se passe chez lui. Une âme impure peut t'amener même à faire l'idolâtrie. Il est plus comme même en français on dit j'étais hors de moi. Oui, j'étais hors de moi. Mon moi il est parti, un autre qui vient à la place. Un fou, j'ai pris de l'argent, j'ai cassé les trucs, d'accord, j'ai maudit, j'ai dit des gros mots, des trucs terribles. Ça, c'est le pire niveau. Après, il y en a un, on l'énerve, il répond en criant. Il ne va pas commencer à tout casser, mais il répond en criant. Niveau déjà meilleur, il répond. Il est très énervé, mais il répond calmement. Mais bon, calmement avec un bouillonnement intérieur. Mais au moins, il répond. Au moins, il répond calmement. Meilleur niveau, il répond même plus. Mais dedans, il est comme un fou. Il y en a un, il s'énerve, et il se calme tout de suite. Il y en a un, ce n'est plus de notre niveau à nous, il ne s'énerve plus, il s'énerve pas. Ça ne lui fait plus rien. C'est un travail. Alors, on ne doit pas vouloir arriver du jour au lendemain à être une super sadikim. Ce n'est pas notre niveau. Mais tu vas lentement, de mieux en mieux, tu commences à te retenir. Et ça va beaucoup mieux. Tu comprends que dans un couple, il n'y a pas de lieu où les nerfs peuvent plus être exprimés que dans le cadre du couple. Parce qu'on est ensemble et on ne se gêne pas. Et on dit tout ce qu'on a à dire, surtout qu'on est très touché. Si les deux sont énervés, mais se parlent calmement, bien qu'ils se disent des choses... ils ne sont pas d'accord. Ils sont énervés intérieurement, mais ils se disent les choses calmement, avec respect, sans dire des gros mots, des choses pareilles. Alors, ok, ils sont en bagarre. Mais tu comprends, c'est une bagarre beaucoup plus light que la grosse bagarre. L'exemple terrible qu'on montre aux enfants. D'accord? Donc, à tout dire, ok, mais ce n'est pas parfait. Je m'énerve encore. Ok, mais c'est mieux que rien. Tu as vu déjà quel niveau tu es? Ok, tu es énervé. Ok, tu t'es énervé. Tu es énervé, tu n'en peux plus. Blah, blah. Bon, au moins, ça va. Tu n'as pas haussé le ton. Tu n'as pas dit des gros mots. Ça, c'est déjà un très bon niveau. Ça provient du travail. Le travail de la tête sur le cœur. Pourquoi est-ce que maintenant mon conjoint, il m'énerve? Il est envoyé de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Que je m'écrase. Ah, si les gens comprenaient ça, on serait au paradis ici. Si les gens comprenaient que dans le couple, il faut céder, il faut accepter, il faut s'écraser. Ah, on verrait un bonheur. Parce que l'union entre l'homme et la femme, ça peut être le plus grand bonheur au monde. Le seul qui empêche de tourner en rond, c'est l'ego. C'est le seul qui empêche de tourner en rond. Si on écrasait cet ego, combien de bonheur il y aurait sur Terre? Oui, il y avait des questions.
Quand quelqu'un il nous pousse à bout, etc., le fait qu'on ne réponde pas, donc on calise notre colère, ça crée une...
Excellent.
Ça crée une haine et une colère en nous.
Ouais.
Donc après, il vaut mieux soulager donc en s'énervant ou en exprimant, en gardant une haine en nous.
Il y a un grand canular sur lequel j'ai été éduqué, moi, dans ma jeunesse. Que si, quand quelqu'un me fait du mal, j'emmagasine, ça crée chez moi une agressivité emmagasinée qui peut venir sortir à autre part. Ça fait beaucoup de mal, ça peut me bouffer intérieurement. Archi faux, c'est le contraire. Plus quelqu'un est agressif, plus il devient agressif. Le comportement négatif t'entraîne, te renforce dans ce comportement. Ça donne un besoin beaucoup plus grand d'être agressif. Au contraire, plus tu vas sortir ton agressivité, plus elle va grandir en toi. Si tu t'écrases, tu t'écrases, au bout d'un moment, tu ne sentiras plus rien. Et c'est comme ça qu'il faut travailler. Et c'est ainsi que que nous ordonne la Torah d'agir. Et c'est la bonne façon d'agir.
Pardon ? C'est même plus une vie, on ne répond plus à rien, alors on est des zombies.
C'est fantastique. Chaque fois que quelqu'un te fait du mal, ça ne te fait rien. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça ? C'est mieux de répondre ? Prenons le cas contraire. Tu réponds, tu es énervé, tu as répondu. Alors, d'abord, ça n'aide à rien. Parce que le type, c'est parce qu'il a répondu qu'il a réagi mieux, d'accord ? Il te réagit encore pire. Donc, c'est l'escalade de la violence. Ça ne servait à rien. Tu t'es abaissé au niveau animal, d'accord ? Tu as aboyé plus fort comme un chien. Et en quoi tu as travaillé maintenant ton ego ? En rien.
Mais encore le cas contraire, à force de s'aplatir, si on reçoit une bonne nouvelle ou quoi, on va dire bon. J'ai peur qu'on arrive.
Tu seras branché avec Dieu, tu seras très très heureux. Mais attends, attention, je répète, comme tu as très bien, on doit se protéger. Je ne dois pas dire toujours à mon conjoint oui pour tout ce qu'elle veut, d'accord ? Ou mon voisin, ou ce que je pense est juste, je le ferai. Mais je parle maintenant dans le cadre de la bagarre émotionnelle, d'accord ? Je dois travailler maintenant mon émotion. Non, je ne me tais rien. Ce que j'ai à dire, je le dirai, calmement, plus tard peut-être. Je ne dis pas que je dois dire tout accepter. Oh, je prends un exemple pour que ça soit clair à vos yeux. Ma femme veut acheter une nouvelle salle à manger. Moi, je vois le compte en banque, je dis, c'est pas possible. Elle s'énerve, et moi, je m'énerve, pourquoi elle s'énerve ? Elle ne comprend pas qu'on peut pas, c'est pas de mauvaise volonté, on peut pas, d'accord ? Je vais prouver, elle s'énerve quand même. Bon. Alors, elle se met, on va dire, elle me dit, t'as jamais voulu mon bien. Tout le contraire, moi, je fais tout pour elle, d'accord ? Je suis touché. Je vais avoir une réaction. Quoi ? Et moi, je fais ça. Je commence. Et puis, c'est pas vrai. On commence au ping-pong. Après, on passe à la pétanque. Après, au baseball. On finit avec les scuds. D'accord ? L'escalade de la violence. Elle va me dire, de toute façon, t'as jamais voulu mon bien. Je m'écrase.
Elle a une réponse, quoi.
C'est vrai. T'as peut-être raison. Je vais essayer de m'améliorer. Et vlan. Non, c'est un beau vlan, tu comprends. C'est gentil, c'est calme. Elle veut la bagarre. Quand on est énervé, on veut la bagarre. Toi, tu réponds une réponse tout à fait.
On la contredit, sûr.
Attends.
Ouais,
parce qu'elle veut la bagarre, tu as peut-être raison. Peut-être que je dois accepter. Peut-être Dieu m'envoie maintenant un message que je n'ai pas été assez gentil avec ma femme. Je l'ai fort faire, tu as peut-être raison, je vais y réfléchir, c'est bien, merci.
Je me prends encore plus mal.
Hein ? Et alors ? Exactement. Moi, je dois être tordu parce qu'elle le prend mal. Moi, je dois être juste, je dois faire ce qu'il faut faire. Je lui dis, écoute, je vois que tu es dans tes émotions, et on en reparle dans 2-3 jours. Parce que maintenant, elle n'est pas contente, je dois céder et me rentrer en dette de façon tout à fait non logique pour acheter la salle à manger ? Non. J'ai un exemple ici, je ne suis pas obligé de capituler. Je capitule, c'est-à-dire que je m'écrase dans la relation émotionnelle, dans le combat qu'il y a avec elle au niveau d'émotion, au niveau de l'ego contre son ego. Là, je m'écrase totalement. Ce qu'il faut faire, parce que c'est juste faire, non, ça, jamais on va bouger. Ce qui est juste faire, on le fera. Quoi qu'elle dise. Si elle a raison, elle a raison. Si moi j'ai raison, j'ai raison. Celui qui a raison, on fera ce qui est juste de faire. Ça, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Tout ce qui va accompagner au niveau émotionnel, il y a le niveau rationnel, d'accord ? Ce qui est la raison, ce qui est juste de faire, on le fera. Ce qui est émotionnel, là, on doit s'écraser sans limite. Les gens ont peur, mais alors on passe pour on est un pigeon. Non, t'es pas un pigeon. J'ai pas dit que tu vas accepter tout ce qu'elle veut. Tu dis non. Mais elle va. Au contraire, la femme verra maintenant cet homme-là. Je veux l'énerver, il s'énerve pas. Mais c'est un guibord, comment on dit ça en français, hein. Un monstre de puissance. C'est très très fort. On dit Hashem Hagadol Hagibor Vanora. On va finir avec cela. Il m'arrête dans ma Maaseret Yoma. C'est marqué Hachem, c'est marqué Moshe. Il a dit Hachem, Hakel, Hagadol, Hagibor, Vanora. C'est le texte qu'on dit dans la Hamida. C'est une phrase de Moshe Rabbeinu dans Sefer Dvarim. Dieu, Gadol, grand, Gibor, puissant, Nora, qui exprime la peur. Effrayant. Redoutable, voilà. Redoutable. Yirmiyahu Hanavi. Le prophète Yirmiyahu, lui, il écrit dans ses névoites, il dit « Hakel Hagadol », le Dieu grand. Il est escamoté « Hagibor Vanora ». On demande pourquoi. On m'a dit « Moi, j'ai vu la destruction du temple, Jérémie. Comment les goïms sont rentrés, ont souillé le Saint des Saints. » Il dit « Les goïms croissent dans le sein des saints. Le peuple d'Israël est en exil parmi les nations. Où est la guiboire, la vaillance de Dieu? Il est fort. Quoi, il est fort? Ce sont ses enfants qui nous sauvent. Redoutable? Regarde, quoi, redoutable? Les goyims nous font ce qu'ils veulent, les pogroms et les trucs. Il l'a pas mis. Il ne pouvait pas mentir. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Je mets un gadol. Moi, je suis immédiat. Moi, je crois. Les sages de la Grande Assemblée, ceux qui ont institué la prière, ils ont mis « Akel Hagadol Hagibor Manoura » comme Moshe Rabbeinu. On s'appelait pour cela, les sages de la Grande Assemblée, « Erziru Atara Yoshna » ils ont ramené la couronne à sa place. Comme si Jérémie, le prophète, il a enlevé la couronne de Dieu quelque part, on a enlevé deux attributs, et les sages de la Grande Assemblée ont remis l'attribut. Mais reste maintenant la question, comment vous dites maintenant que Dieu, il est Gibor et non, il est fort et redoutable, alors que les goyim croissent en son sein et son peuple dispersé et poursuivi dans les pogroms, etc. C'est ça sa grandeur. Dieu, il peut frapper. Il est puissant, il fait ce qu'il veut. Mais les goyim rentrent dans son sein des saints et croissent et blasphèment. Ils disent, c'est de la blague, il peut rien faire ce Dieu. Et Dieu ne fait rien. Ça, c'est puissant. Son peuple, ses enfants qui sont des pogroms, tout ça, Dieu peut en une seconde ratatiner tous les goyim qui le font ça, il ne fait pas. Ça, c'est puissant. Quand ta femme voit que tu peux crier, tu peux insulter, tu restes calme. Tu réponds à ce qu'elle dit. Ouais, tu as peut-être raison. Tu montres que tu es un gibor, tu es fort, tu es redoutable. Et les gens respectent ça. Baruch Adonai, Amen.